Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans cet épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France.
Ici, si vous nous suivez, vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans aucun complexe. Au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes encore confinés en région parisienne. Comme vous, peut-être, nous avons passé beaucoup de temps ces dernières semaines devant nos écrans pour nous informer, peut-être même un peu trop, et nous avons malheureusement constaté que le racisme, lui, n'était malheureusement pas en confinement. On vous disait dans notre dernier épisode que la crise sanitaire du Covid-19 avait été révélatrice des inégalités sociales et raciales. Cette crise a été aussi l'occasion de voir les stéréotypes racistes se déployer dans les médias et plus généralement dans l'espace public de manière parfois surprenante.
Alors, c'est notre sujet du jour. Aujourd'hui encore, nous ne sommes qu'entre nous, hein, toutes les deux, Rokaya et moi. On enregistre depuis nos intérieurs confinés, hélas, sans la possibilité d'avoir un ou une invité en présentiel. Mais vous allez entendre de nombreuses voix dans cette discussion.
Avis à la population lyonnaise. Ceci n'est pas un exercice. Toute personne qui voit un Chinois ou une Chinoise doit immédiatement se présenter nu à la mairie de Lyon. Des militaires en combinaison anti-Tchernobyl vous tremperont dans un tonneau d'eau de Javel. Attendez, deux secondes, je dois téléphoner. Arrêtez-moi cette réverbe à la con. Allez, allez. Oui, brigadier, oui, faut, oui, allô, oui, vous m'entendez, oui, Gérard Collomb, il faut, merde, oui, ben je suis le maire actuel de Lyon, faut attraper cette Chinoise impérativement, oui, ben écoutez, vous faites ce que vous pouvez, vous la tirez comme vous voulez, vous mettez, je ne sais pas, moi, des nems en ligne sur le trottoir,
oh là là,
et au bout, une grande tapette à Chinois, et puis, elle ne doit pas, non, mais écoutez, elle ne doit pas nous échapper.
Alors, c'était Nicolas Canteloup sur Europe 1, dans la revue de presse, que... Donc c'est assez abominable, moi ça me...
Ouais, c'est vraiment pénible en fait, c'est horrible à entendre, c'est déjà c'est pas drôle et c'est franchement c'est dingue quoi.
Donc du coup c'est vraiment comme un... Alors ça c'était avant le confinement, hein, ça c'était le 24 janvier, donc c'était vraiment... Bah, le 24 janvier c'est à l'annonce, c'est suite à l'annonce de la quarantaine à Wuhan, ça s'est passé à ce moment-là. Donc déjà il y avait une stigmatisation des Asiatiques, hein, et l'un des boucs émissaires préférés du Covid-19 sont les Asiatiques. Dans tous les pays occidentaux, les Asiatiques ont été la cible de violences verbales et physiques. Et là ce qu'on entend de la bouche de Nicolas Canteloup sur une grande radio française, hein, Europe 1 quand même.
Il imite Gérard Poulon, le maire de Lyon. Hein.
Voilà, qui est confronté à un cas de Covid-19 dans sa ville.
Ouais.
Et sous les traits d'une femme chinoise. Et donc, il a enfin l'appel à attraper cette Chinoise comme les gens peuvent, en alignant des nems sur le trottoir. Voilà, bon, bref. Donc,
C'est tellement offensant.
C'est tellement... Et je rappelle que Nicolas Canteloup, il faisait déjà des imitations, comme il dit. Il imite Jean-Vincent Placé, le sénateur d'Europe Écologie Les Verts, avec un fort accent asiatique, alors que Jean-Vincent Placé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il a beau avoir un faciès asiatique, mais il parle français sans accent. Donc,
il a grandi en Normandie, donc c'est un peu normal.
Donc déjà, rien que de projeter sur une personne comme Jean-Vincent Placé un fantasme d'accent asiatique, alors que cet homme ne parle depuis, il n'a jamais parlé qu'un accent asiatique, C'est quand même, et il le fait pas que pour Jean-Vincent Placé, il le fait pour Christiane Taubira, enfin bon, il le fait pour énormément de gens.
En fait, ce que je trouve dingue, c'est que c'est comme si dès que les personnes avaient, tu vois, une apparence non blanche, ils ne se prenaient pas la tête à essayer de les imiter vraiment, mais leur plaquer son imaginaire. C'est-à-dire que là où pour un blanc, il va vraiment essayer d'imiter la voix, le phrasé, etc., là directement, accent asiatique, quelconque d'ailleurs, qui n'est même pas un accent déterminé. Parce que pour lui, ça suffit, quoi, pour identifier.
Ça suffit. Ça suffit pour être drôle, en fait. C'est ça que on nous sert. Dans ces imitations comme Michel Leeb à l'époque. Enfin, il y a rien d'asiatique dans ce qu'il fait comme accent ou d'africain, comme il dit. C'est juste raciste. Voilà.
Ouais, et dans la même veine, hein, on était toujours au mois de janvier, donc à une époque où on ne se sentait pas forcément exposé au virus, donc c'était le 26 janvier, le courrier Picard a mis en une alerte jaune et a rédigé un éditorial, publié un éditorial qui s'appelait « Le péril jaune ?» point d'interrogation. Ce qui est fou, c'est que vraiment, là, on a ressorti les poncifs qui ont plus d'un siècle sur le péril jaune, sur l'espèce de mal insidieux qui viendrait d'Extrême-Orient. Enfin, vraiment, tout ce racisme, en fait, colonial qui a été mobilisé tout d'un coup avec un espèce de jeu de mots, mais totalement abject et hors de propos. Et finalement, ils ont présenté des excuses. Donc je vais lire les excuses. Ils ont dit, donc, dans notre esprit et dans son sens premier, il était à prendre au sens coloriométrique, à savoir dans une gradation du jaune au rouge à l'image des alertes météo. Alors, comment dire que vous nous prenez pour des imbéciles? Non, mais genre,
c'est
un virus qui vient, parce que je veux bien que ça, admettons que pour l'alerte jaune, ça passe. Supposons que ce soit une gradation, mais le péril jaune, je connais pas le péril rouge, moi. J'ai jamais entendu parler d'un péril rouge ou d'une gradation dans les périls.
Non, mais tu sais, c'est et dans cette catégorie de quand les excuses sont pires que le.
Ouais.
Tu vois, je te fais des excuses et là, en fait, tu vois vraiment que je suis raciste.
C'est ça, genre, ah bon, ah, c'est un rapport avec le. Non, c'est pas du tout raciste, c'est juste que vous voyez dans les alertes, eh ben, ça va du jaune jusqu'au rouge et ça n'a aucun rapport.
Tu m'as mal compris, en fait. C'est ta faute. Tu vois du mal partout.
C'est terrifiant. Je crois que, ouais, effectivement, les Asiatiques n'ont pas été en reste. Hein. Il y a d'autres choses qui se sont produites, hein, grâce.
Ouais, alors, il y a eu énormément de choses, de témoignages de personnes sur Twitter, sur des réseaux, qui ont fait part des violences, que ce soit des regards, ou que ce soit des mots, ou que ce soit même des fois des gestes. Hein. Il y a des gens qui ont été poussés hors de rames de métro. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même. Ça s'est constaté sur les réseaux. Moi, je connais personne dans mon entourage qui n'a pas eu une histoire comme ça ou entendu une histoire comme ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de très présent. Et ensuite, pendant le confinement, ça s'est un peu dégradé encore.
Juste avant que tu reprennes sur le pendant le confinement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été agressés physiquement parce qu'il y avait tout un climat de suspicion extrêmement raciste à l'égard des personnes d'origine asiatique, mais il y a aussi des blagues, comme Nicolas Bedos. Enfin, tu vois, il y avait une espèce...
Ah oui, Nicolas Bedos, j'ai oublié ça.
Comment l'oublier? Avec sa story Insta où effectivement, il a filmé des personnes d'origine asiatique. On en avait parlé dans le Kif Taras avec le crossover qu'on a fait avec... avec nos amis du Chip, et il les a filmés à leur insu, en fait, en faisant des blagues sur le coronavirus. Donc, voilà, ils étaient dans une piscine, je crois, il les a filmés de loin, et à visage découvert, voilà. Donc, il y avait quand même ce climat-là qui était déjà présent.
Complètement. On s'autorise à dire des choses pour les personnes asiatiques parce que le virus permet de faire du racisme sur ces gens-là. Et donc, pendant le confinement, il y a eu cette affaire BFM TV, donc ils enterrent des Pokémon, ça s'est passé le samedi 4 avril, pendant une cérémonie funéraire en Chine en hommage aux morts du Covid-19.
Ils enterrent des Pokémon.
Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont résonné.
Ah, là, ça a été un choc vraiment très fort dans les communautés asiatiques en France et d'ailleurs aussi en Chine, hein, parce que on en a parlé. Déjà, le fait que lors d'une cérémonie funéraire, on est là pour rendre hommage à la mémoire des personnes qui ont disparu, parfois dans des circonstances de souffrance, quoi, parce que c'est quand même quelque chose parce qu'il y a un virus dont on parle, et de se permettre de les comparer à des Pokémon, qui sont donc, si vous ne connaissez pas les Pokémon, ce sont des personnages de manga, des personnages animaliers, de jeux vidéo, de manga, de voilà.
Japonais surtout, c'est un autre pays
japonais,
quand même.
Japonais, voilà. Et c'est japonais. Voilà, donc tout ce que cette personne a pensé en voyant ces personnes mortes, c'est se dire « Ah, bah, on dirait des Pokémon !» Donc, déjà, c'est raciste.
Ouais.
C'est inapproprié, ça, c'est sûr. Et donc, Emmanuel Chypre, le journaliste, a présenté des excuses un peu plus tard, donc ce qu'ils appellent des excuses, mais moi, maintenant, je mets des guillemets à tout ça, parce que c'était pas des excuses dans le sens premier. Donc, il dit « C'était totalement inapproprié, j'en suis vraiment désolée. » Et surtout, il s'est défendu d'avoir dit ça avec le micro ouvert en pensant qu'il était fermé. Donc, c'était vraiment ça son excuse, c'était qu'il pensait que le technicien avait pas fait son travail.
Mais c'est ça, en fait, ce que je trouve dingue, c'est qu'il dit pas « je suis désolée d'avoir été raciste » et « je suis désolée d'avoir été raciste » avec des micros ouverts. Tu vois, c'est genre, si les micros étaient fermés, ça aurait été OK, mais là, je suis désolée que vous m'ayez entendu. Mais c'est ouf, en fait, de déplacer la question sur le fait que, malheureusement, sa blague a été entendu, parce que c'est comme si, en fait, enfin, je sais pas pour qui c'est approprié de faire une blague pendant une cérémonie funéraire et pendant un deuil national. Je trouve ça dingue que la seule chose qui lui soit venue à l'esprit, c'est de déshumaniser les gens qui étaient en train d'être enterrés, donc de commémorer leur mort, et de faire une blague sur, en plus, raciste, enfin, tu vois, l'espèce de truc de les Pokémon, c'est japonais, on s'en fiche, c'est comme si le Japon, la Chine, tout ça, c'était la même masse asiatique. Et puis, c'est dingue. Et en fait, il n'a jamais reconnu que c'était problématique.
Et le fait qu'il le chuchote, le fait qu'il chuchote ça, ça veut aussi dire que déjà, en le disant à ses collègues, j'imagine qu'il parle à ses collègues d'à côté, tout ça, il sait qu'il y a un truc qui ne va pas avec ça. Sinon, il le dirait peut-être à voix haute. S'il pensait que les micros étaient fermés, il n'aurait pas eu à chuchoter. Et de se dire que peut-être que c'est quelque chose qui circule de manière assez habituelle dans autour de cette personne-là qui le dit de manière peut-être régulière, de faire des blagues sur les minorités, enfin, juste que sais-je, je ne suis pas dans ces petits papiers, mais on a l'impression que son public lui était acquis, en fait. Et donc là, on l'a chopé, mais habituellement, il fait ça tranquillement, quoi. Donc c'est ça qui est incroyable, de voir cette mentalité faire surface au grand jour et de s'en défendre en disant d'habitude on le fait, personne nous dit rien parce que on a les micros éteints. Bon là, ok, d'accord. Mais bon, voilà.
Mais c'est ça que moi je trouve offensant pour ses collègues. Tu vois, tu te dis que si le mec se permet de faire ça devant toi en pensant que c'est drôle, ça veut dire qu'il estime que tu penses la même chose, quoi. Et je trouve ça vraiment. Enfin, moi, ça m'aurait horrifié que quelqu'un s'imagine que je puisse être complice d'une blague aussi dégueulasse, tu vois. Et ça, c'est vraiment abusé.
Et donc, ces propos racistes, ils ont quand même propagé la haine pour les personnes, à l'encontre des personnes asiatiques, presque plus rapidement que le virus, hein, parce que il y a eu ces propos. Et il y a aussi eu autre chose qui a été mise en lumière, c'est l'utilisation d'iconographies de personnes asiatiques avec des masques pour illustrer des articles sur le Covid-19. Et ça a été assez répandu, parce que toutes les publications, enfin tous les médias ont fait leur propre dossier sur le coronavirus, sur le Covid-19, sur la crise sanitaire, etc. Et ça s'est passé aux États-Unis, mais je pense que on peut parler de la même chose en France. Plusieurs médias, dont le New York Times, donc on ne parle pas de petits médias obscurs, hein, locaux, ont été critiqués pour avoir, et d'ailleurs ils ont modifié les images, les illustrations qu'ils avaient utilisées pour couvrir des infos. Donc c'était pour le cas du New York Times, d'une femme qui aurait contracté le Covid en Iran. Et ils ont utilisé une photo de personne à Chinatown, à Flushing, dans le Queens, un quartier asiatique de New York, qui n'a donc évidemment rien à voir avec la soupe de chou. Et ça envoie le message implicite que les Asiatiques sont porteurs du virus, du coup, parce que quand on parlait d'une histoire, vous couvrez une histoire qui parle de virus, qui n'a rien à voir avec des personnes asiatiques, donc une femme, alors il ne précise pas, mais j'imagine qu'elle est blanche, en Iran. Ouais. Et là, on vous dit, et l'illustration, c'est des personnes, des personnes pas en premier plan, avec des masques à Chinatown. Et donc, le New York Times a s'est excusé en disant que, ils disent que on a publié des centaines de news, d'articles sur le coronavirus, et chacune avait besoin d'une image. Donc, on a sélectionné ça un peu à la va-vite, quoi. Donc, encore une fois, c'est une excuse qui prouve que c'est parce qu'on avait beaucoup de travail, on n'a pas fait attention, c'est bon, quoi. Ah.
Justement, ça montre la dynamique des impensés raciaux et racistes. C'est-à-dire que quand t'as pas le temps de réfléchir, le plus naturel, en fait, enfin, ce qui vient le plus facilement, le plus spontanément, c'est de produire un stéréotype raciste. Donc, c'est l'occasion d'interroger les inconscients. Parce que quand tu réfléchis, tu vois qu'il y a un problème. Mais quand tu réfléchis pas, tu vois, de manière vraiment mécanique, tu reproduis tout ce que l'imaginaire collectif, en fait, ne cesse de répéter.
Et j'ai eu un peu le même sentiment à la vue d'une illustration de Madame Figaro. C'était le 11 avril 2020. C'est quelque chose qui a été soulevé par un compte Instagram qui est tout nouveau, qui s'appelle Yellow Woman. Donc, c'est un compte tenu par des personnes asiatiques françaises et des femmes. Et le titre de l'article, c'était « Banni par le coronavirus, la mise à la française reviendra-t-elle un jour ?» Donc, c'est un article sur nos gestes de salut, le salut, la bise, etc. Et donc, l'illustration de cet article était une femme asiatique. Donc, alors, moi, je suis très contente de voir une femme asiatique dans Madame Figaro.
Et de quoi tu te plains, Grâce, pour une fois qu'il y a une femme asiatique dans un magazine féminin?
Tu vois, qui représente l'essence de la France, hein, puisque la bise à la française, c'est quand même, waouh, tu vois, ce qui nous représente vraiment essentiellement. ce qui me paraît un peu flagrant, c'est que ce choix d'illustration a été guidé par le mot banni par le coronavirus, plutôt que le complément à la française. C'est peut-être moi qui vois du racisme partout, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des images de femmes asiatiques sur d'autres articles de Madame Figaro peut-être, et que justement sur cet article-là, on s'est dit qu'on allait prendre cette femme.
Ouais. Bah c'est ça, la femme asiatique qui menace notre mode de vie, c'est ça, c'est exactement qui met en péril la culture française.
Et ça envoie des messages implicites, je pense, l'illustration autant que le titre et autant que des propos, parce que ça fait partie de la news, de l'actualité en fait.
Exactement. Et il y a d'autres trucs qui m'ont frappé aussi. C'est vraiment en amont de la propagation du virus et puis vraiment tout au long de sa propagation à travers le monde, c'est le fait de parler de virus chinois. Tu vois, virus chinois. Et en fait, il y a une image qui a été prise pendant la conférence de presse de Donald Trump, qui montrait en fait que sur son texte, en fait, le texte qu'il devait lire, il était écrit coronavirus, et en fait, lui, il l'a barré pour le remplacer par le terme virus chinois. Et en fait, c'est assez fou parce que Donald Trump a vraiment entretenu pendant toutes ses interventions, surtout au début, toute l'idée que ce virus était chinois et que c'était quelque chose qui était relatif à la Chine. Et il y a même des gens de son administration qui disent qu'ils l'ont entendu employer le terme de kung flu. Donc, flu, ça veut dire grippe, en fait, en anglais, et kung fu, voilà, le jeu de mots sur ça. Et en fait, c'est Yamiche Alcindor qui citait sa collègue de CBS News qui s'appelle Weijia Jiang, qui dit avoir entendu en fait une personne de l'administration de Trump employer le mot kung flu. Donc apparemment, c'était une blague qui tournait en fait dans leur cercle. Et Donald Trump, quand on lui a posé la question, il a botté en touche. Mais je trouve ça incroyable. En fait, je sais pas comment tu l'as reçu.
Ah bah moi, encore une fois, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'iconographie, par rapport au choix des éditos, c'est que ça révèle une certaine volonté ou une paresse, hein, d'associer le Covid-19 avec la Chine. Et il y a un agenda dans tout ça. C'est-à-dire que parce que l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé préconise depuis 2005 de ne pas associer justement des apparitions de virus, de maladies avec, enfin, ni une nationalité, ni une région géographique particulière, ni un nom de personne qui l'aurait découverte ou des animaux, etc. C'est pour ça que, par exemple, des termes neutres comme Covid-19, donc qui a été créé pour désigner le coronavirus qui a commencé à Wuhan, ou bien le H1N1 pour la grippe A qui a fait rage en 2009, notamment aux USA, hein, et qui était en provenance du Mexique selon Wikipédia, ou H5N1 qui a été avant appelée la grippe aviaire et qui a fait rage en Asie en 2010. Et pourquoi est-ce que du coup, à l'encontre des préconisations de l'OMS, ou même de bon sens, c'est-à-dire que un virus, moi je fais vraiment une distinction entre le lieu d'apparition d'un virus. Ouais. En Chine, on ne peut pas le nier que ce sont les premières victimes de ce fléau. Hein. Mais à distinguer avec la responsabilité, l'origine, avec. Parce que quand.
Et même l'identité, tu vois. L'identité du virus.
L'identité.
Tu vois, c'est ça qui est bizarre.
Parce que je pense que l'idée, c'est aussi d'évoquer une potentielle responsabilité juridique au plan international. Et je pense qu'on se penche beaucoup sur cette question-là. Donc, est-ce qu'ils sont responsables? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça mobilise aussi de vraies questions on mobilise ces stéréotypes de la fourberie, ils cachent des choses, c'est opaque chez eux, on peut rien. Et du coup, je prête vraiment attention aux spécialistes de la question écologique qui ont beaucoup écrit sur les conditions d'apparition du Covid-19 et qui ont lié ce virus à des questions non pas sanitaires et donc d'hygiène sur les marchés aux animaux sauvages, mais à une question écologique de destruction des habitats naturels, de monoculture, du recul des terres qui sont non exploitées par les humains et qui poussent les espèces vivantes à continuellement cohabiter dans une certaine précarité, promiscuité et la pollution grandissante. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs discours qu'on peut entendre dans l'espace public et vraiment j'essaie de plus m'intéresser à ces questions parce que la mondialisation a poussé ce virus à se propager vraiment de manière phénoménale et fulgurante partout et il faut vraiment se pencher sur la mondialisation pour aussi trouver une solution à cette propagation et pas seulement à pointer la faute, à dire c'est qui.
Oui, c'est ça. Et puis vraiment, toute cette rhétorique qui consiste à dire que le virus, en fait, a été transmis à l'être humain du fait de pratiques, tu vois, alimentaires singulières. Tu vois vraiment le côté…
Ah ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est chelou, ils mangent du pangolin. T'as envie de dire, je sais pas, il y a des gens qui mangent des escargots en France, donc juste, on va rester tranquille, tu vois. Il y a un côté… Non, mais c'est bon, on va pas commencer à donner des leçons aux gens, alors que franchement, il y a des choses… que nous mangeons, qui peuvent paraître absolument dégoûtantes à d'autres personnes. Mais tu vois, il y avait cette espèce de registre vraiment de l'exotisme, de « ah oui, les Chinois ont une forme de cohabitation, de même une façon de se nourrir très particulière. » Et ben du coup, ils ont, d'une certaine manière, bouleversé des règles intangibles et ancestrales, etc. Donc ça encore, c'est un truc qui m'a vraiment saoulé, quoi.
T'as complètement raison, parce qu'il y a énormément de blagues, hein, tu vois, en mode « je dis ça, je dis rien », mais quand même, en Chine, il y a eu énormément d'épidémies depuis… c'est-à-dire qu'il faut les choses de manière factuelle et scientifique, et je pense que les personnes qui font ce métier-là sont plus à même de le dire que moi, mais de dire que c'est un grand pays c'est un territoire sur lequel il y a énormément de changements de ces dernières années et tout ça au nom de bouleversements comme la mondialisation, comme on appelle quand même la Chine l'atelier du monde, hein, parce qu'il y a énormément d'usines qui ont poussé des villes pour soutenir cette consommation effrénée qu'on vit depuis 50 ans. Et donc, ce n'est pas du fait des Chinois. C'est-à-dire que c'est
bien sûr, c'est que nous, on leur a délégué effectivement des besoins qu'on a. Et puis en plus, je trouve qu'il faut aussi se décentrer parce que très honnêtement, tu vois, moi, ce dont je me rends compte aussi, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes en France sont en train de découvrir qu'il faut se laver les mains et enlever ses chaussures en rentrant chez soi. Enfin, il y a plein de cultures dans lesquelles on ne rentre jamais chez quelqu'un avec des chaussures. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça. Parce que voilà, c'est ce qui m'a été transmis culturellement normal de ne pas circuler dans un lieu habité avec des chaussures. Bon voilà, il y a plein de choses qui paraissent vraiment absurdes pour d'autres cultures qui sont très très communes en France. Donc tu vois le côté, voilà, c'est bon, on se lave les mains. Bah oui, heureusement, on se lave les mains. Il y a des cultures dans lesquelles on se lave les mains avant chaque prière et jusqu'au coude, quoi. Donc voilà, il faut aussi sortir de. Il faut sortir de la perspective et comprendre que certaines choses qu'on fait aussi en France ne sont pas forcément perçues comme normales ou comme hygiéniques. Alors évidemment, on parle de cette manière dont il y a tout un implicite qui s'est développé autour des Chinois. Il y a un son que je voulais te faire écouter aussi, que je trouve particulièrement parlant.
Vous êtes directeur de l'école de guerre économique, Christian Arbulo. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis très content parce que j'ai lu votre travail formidable sur la Chine. La construction laborieuse du storytelling chinois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Chinois veulent faire oublier le côté pyromane et montrer l'image du pompier. C'est cela ? Manipulation d'informations ?
Alors, je pense qu'on en a assez entendu. Le mec dont le boulot est quand même d'anticiper la guerre économique, c'était sur RMC le 16 avril dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, c'est lui qu'on a entendu. Moi, ce qui me pose problème, c'est cette rhétorique, en fait, qui consiste c'est-à-dire les Chinois, pour parler du gouvernement chinois et des autorités chinoises. En fait, j'ai un vrai problème parce que c'est un gouvernement, c'est une entité qui représente effectivement la population chinoise voilà, de manière politique, mais c'est pas les Chinois. Quand là, à l'instant, on a parlé de Donald Trump, quand Trump fait un truc, quand l'administration Trump prend une décision, on dit pas les Américains. Quand Emmanuel Macron prend une décision ou Édouard Philippe annonce quelque chose, on dit pas les Français. Et là, je trouve que dans les Chinois, cette manière de dire les Chinois, de dire la Chine, par exemple, qui est un pays où le gouvernement chinois, il y a une manière d'essentialiser et en fait toujours de d'une certaine manière d'alimenter cet imaginaire sur le péril jaune. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
Bah moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, surtout que surtout qu'il faut se remettre en situation, c'est-à-dire que le peuple chinois n'a pas le droit de vote. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a choisi son dirigeant, c'est nous. C'est que si on peut associer un peuple avec leur choix politique, c'est nous quand même. Je veux dire, aux États-Unis, on a choisi les dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus de nulle part, ils ont été élus. Donc en Chine, qui est quand même. Alors, ben, je ne veux pas angéliser la Chine en disant que tout est génial, ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas, de rendre équivalent le peuple chinois avec son gouvernement qui lui est imposé depuis la nuit des temps, en fait. Ils n'ont jamais eu le suffrage universel. Et je pense que c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que nous, on sait que, par exemple, aux États-Unis, la Californie, New York et ces pays de la côte qui sont plus, c'est pas le Texas, c'est pas le Midwest. On sait pertinemment qu'il y a des divergences d'opinion politique et il y a énormément de choses qui sont, des gens qui protestent. On sait que les États-Unis et la France et la plupart des pays occidentaux sont composés de populations qui ne sont pas forcément d'accord et qui ont des opinions politiques diverses. Mais c'est aussi le cas en Chine, sauf qu'on ne l'entend pas ici parce qu'on n'a pas les mêmes médias, on n'a pas les mêmes réseaux sociaux, etc. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont dissidents, quoi. Enfin, d'ailleurs, qui mettent leur vie en danger parfois parce que les conditions d'expression ne sont pas les mêmes et les libertés fondamentales et individuelles ne sont pas assurées de la même manière dans certains pays. Moi, je trouve ça incroyable de rendre l'équation gouvernement égale peuple. Comme le disait Anne Cheng, qui est au Collège de France, qui est une philosophe, elle disait qu'il y a vraiment cette idée que la Chine est un État-parti et qu'il représente vraiment toute la Chine et tout son peuple, alors qu'on a beaucoup plus d'images diverses sur les gouvernements et leur population ailleurs, en France et dans les pays
français. Et c'est vraiment l'idée, encore une fois, que les Chinois représentent une espèce de masse indistincte, qui d'une certaine manière, ils sont tous co-responsables, complices, alors que quand on dit ça, on n'imagine même pas que les Chinois, les populations chinoises puissent être aussi victimes de leur gouvernement, puisqu'ils ne l'ont pas choisi. Tu vois, d'une certaine manière, il y en a qui sont, comme tu parlais des dissidents, etc., qui sont aussi victimes de certaines décisions qui sont prises par un gouvernement qui n'a pas de légitimité démocratique, au sens où on entend, évidemment, ici en France, quoi. Donc, mais grâce, il n'y en a pas eu que pour la Chine, hein, je te rassure. Ah. On va écouter un petit son qui décale un petit peu le regard.
Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles font... Elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique.
C'était sur LCI le 2 avril dernier. Et donc, les deux personnes qui s'exprimaient, c'était Jean-Paul Mira et Camille Locht, respectivement directeur de recherche à l'INSERM et chef de la réanimation de l'hôpital Cochin de Paris. Alors, moi, ce qui m'a frappée, c'est vraiment la désinvolture dans la discussion. Vraiment cette manière de parler, parce que de parler comme si on parlait d'un sujet extrêmement léger. Parce que effectivement, ça a choqué que ces médecins évoquent la possibilité de d'effectuer des tests en Afrique. Moi, je pense que c'est important que le continent africain puisse bénéficier de tests comme tous les autres pays. Mais il faut que ce soit de sa propre volonté, d'une part, et pas pour les raisons qui ont été évoquées. Parce que là, il y avait vraiment un côté en Afrique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réanimation. Donc, perdu pour perdu, autant y aller. Et derrière, notre, tu vois, il y a vraiment un côté, bon, les Africains, on peut faire des tests. C'est pas comme si quelqu'un allait remarquer qu'il va se passer quelque chose de pire que ce qui se passe habituellement, tu vois. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, il parle des prostituées. Donc, les prostituées, pareil, on a déjà fait des tests sur le sida, sur les prostituées. Donc, c'est toujours cette idée de corps qui sont des corps d'importance secondaire, qui vont être le support d'une réflexion qui va bénéficier à des corps prioritaires, donc qui sont nos corps. Les corps, en tout cas, moi, je ne sais plus d'ailleurs où je suis, est-ce que je suis du côté africain ou du côté occidental, je ne sais pas. En tout cas, les corps occidentaux qui, eux, sont dignes, en fait, d'intérêt et peut-être de respect. Et vraiment, j'étais hyper choquée par le ton. Vraiment, le ton, si je peux être provocateur. Après, ils ont présenté des excuses en disant que, évidemment, il n'y avait pas de... d'intention malveillante, etc. Mais le fait que le mec dise « si je peux être provocateur pour commencer » signifie pour moi qu'il savait très très clairement qu'il allait dire quelque chose de problématique, tu vois.
Ah bah non, mais deux ans, si une phrase qui commence par « si je peux être provocateur » par un médecin, écoute-moi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Et ça peut pas dire terminé, hein ?
C'est clair, comme... Ouais, je suis pas raciste,
Non, mais attends, et encore une fois, tu vois, là, on place toujours le curseur sur l'intention. C'était pas notre intention de dire de quoi que ce soit, mais en fait, là, quand tu mets deux médecins sur une chaîne d'info, parce que c'est quand même LCI, donc c'est pas non plus, tu vois, un obscur canard, quoi, et qui font des hypothèses qui commencent par « si je peux être provocateur », ça envoie un message, ça vend le message qu'il y a un terrain là-bas qui peut être un terrain de test, on va faire ce qu'on veut là-bas. Enfin, il n'y a pas de place pour la provocation quand même dans ce genre de discussion à la télé pendant une crise sanitaire. Enfin, faut aussi replacer les choses dans leur contexte, quoi.
Absolument, absolument. Et vraiment, ça a fait un tollé qui, pour moi, est justifié. L'INSERM a essayé d'expliquer que c'était pas raciste, qu'il parlait d'utiliser les tests sur le BCG pour la recherche contre le coronavirus. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a des corps dont on peut disposer parce que ce sont des corps de valeur moindre qui sont déjà exposés à des risques au quotidien. Et vraiment, il y a une dimension à la fois raciale, raciste, avec toute l'histoire coloniale du continent africain. Et là, je renvoie à un texte super intéressant qui a été publié par Mam Fatou Nyang sur Slate, qui raconte cette histoire-là, et puis aussi la dimension sexiste par rapport au corps des femmes prostituées qui, elles, sont considérées comme des corps, effectivement, je sais pas, des corps de moindre valeur. Donc là, il y avait un problème. Il y a une autre question aussi que j'ai trouvée intéressante dans le cadre du confinement, c'est le renversement de la question migratoire. C'est pas un renversement total, mais c'est vrai que quand on voit la manière dont dès que l'annonce du confinement a été prononcée, de nombreuses personnes se sont déplacées sur le territoire, y compris sur le territoire national, notamment 17% des Franciliens qui sont allés, donc ça fait 1,2 million de personnes qui sont allées en dehors de l'Île-de-France pour se réfugier, pour se poser dans des espaces plus accueillants probablement. Ça montre que quand on est en danger, en fait, quand on se sent en danger, quand on se sent vulnérable, on a envie de migrer et on a envie de bouger. Et ça montre pour moi vraiment que la question migratoire, on dit toujours les migrants, ils bougent, on ne sait pas pourquoi, que nous, juste à l'évocation d'un virus, on part à la campagne, ça veut dire que c'est important de pouvoir migrer. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est tous les papiers sur les Français qui étaient bloqués à l'étranger, qui ont parlé de leur détresse face à un comportement hostile auquel ils ont été confrontés, notamment. Il y avait un papier... sur LCI et qui s'appelait coronavirus sur LCI, le site de LCI qui s'appelait coronavirus 770 000 Français toujours bloqués à l'étranger. Et donc il y avait un témoin qui disait les gens commencent un peu à nous regarder de travers. On sent que l'ambiance est en train de changer. Et il a ajouté on nous appelle Corona. Et donc lui il était c'est pas drôle.
Bon déjà. C'est pas drôle de se faire appeler Corona, ça j'en
suis. Ouais, c'est clair.
Mais c'est encore plus dur pour quelqu'un qui a jamais eu de surnom avant. Hein.
Mais c'est ça, pour quelqu'un qui est privilégié, qui a jamais connu la stigmatisation, d'un coup ils se disent mais pourquoi on nous regarde de travers et on les met de côté, tu vois. Il me semble que c'était en Inde, je suis pas certaine, mais il me semble que c'était en Inde. Mais en fait, c'est fou parce qu'ils réalisent ce qui est la condition de plein de migrants et qui se déplacent pas dans des conditions aussi confortables que eux qui étaient des touristes, tu vois. T'as noté un autre truc qu'au Pérou, je crois.
Ouais, il y a un autre article par rapport au Pérou. Donc, il y a quelqu'un, un Français, qui dit qu'il regrette. Nous sommes complètement rejetés par les locaux, tels dit pestiféré. Donc, c'est un article du Figaro qui est titre « Français bloqués à l'étranger, nous sommes rejetés par les locaux ». Donc, il parle pas que du Pérou, il y a aussi le Cambodge. Mais j'ai envie de leur dire, mais tu sais comment cette pub là avec Nicole Kidman? What did you expect? Ouais. C'est depuis le 23 janvier, il y a à Wuhan, une région où il y a 50 millions de personnes qui sont en quarantaine. Donc, quand on fait un tour du monde ou qu'on fait un voyage d'un mois en sac à dos en Asie, on peut pas s'attendre à être reçus comme des rois. Hein. Ils ont l'air de tomber des nues en se disant mais je comprends pas, on m'avait dit qu'ils étaient accueillants et pacifiques. et là, du coup. Ils veulent pas. Ben oui, parce que en fait, c'est ni le moment, ni le. Enfin, et on peut pas être accueilli en grande pompe et s'attendre à ce que les gens nous attaquent comme des sauveurs. Parce que là, il y a rien de.
Comme des messies. Et puis il y a eu d'autres trucs. Excuse-moi, il y a eu d'autres cas. Il y a eu des expulsions d'Italiens, de Mauritanie et de Tunisie. Et je pense que c'est un moment qui était intéressant parce que tout d'un coup, ça renversait aussi le caractère de désirabilité. Tu vois, c'est-à-dire que les migrants sont indésirables quand ils sont en Europe, etc. Ils vivent le stigmate, en plus souvent de conditions économiques bien plus précaires que celles de touristes. Et en fait, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est qu'il y a des Italiens qui sont venus et les autorités ont voulu les placer en quarantaine et ils ont refusé. Et en fait, ils leur ont dit, bon, bah, salut, quoi. Ils ont été expulsés. Et je pense, tu vois.
Tu es dans un pays étranger, la police te dit quelque chose, tu dis non, mais comment c'est possible?
Moi, c'est clair. Nous, déjà, dans notre propre pays, on a peur de la police. Alors, tu vois, dans un pays étranger, tu fais pas le malin, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ils ont été expulsés. Mais je trouvais que c'était vraiment une réflexion intéressante sur laquelle j'ai écrit d'ailleurs pour Slate sur la question migratoire et le sens de la migration et puis l'importance de pouvoir vivre, en fait, à l'endroit où on se sent tout simplement en sécurité.
Et c'était au lendemain, je me rappelle, c'était au lendemain de l'annonce de la mise en quarantaine de l'Italie. Et à cette époque-là encore, et encore aujourd'hui, hein, il y avait très très peu de cas de Covid-19 sur le territoire de l'Afrique d'une manière générale. Et donc du coup, ça avait poussé ces gens-là à aller chercher là où, enfin, de l'herbe plus verte ailleurs. Et il s'agit de l'Afrique pour la Tunisie ou bien la Mauritanie. Et ce qui est aussi quelque chose d'assez inhabituel dans ce qu'on lit dans les médias, parce qu'on parle toujours de l'Europe, de l'Eldorado, de l'Occident, etc. Et on s'attend à une migration que dans un sens, hein, comme dans beaucoup de films qu'on a vus, etc., qui alimentent cette... Et là, ça renverse, comme tu dis, ces paradigmes qu'on a toujours vécu.
Exactement. Il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé assez surprenant, que je vais te faire écouter.
La nouvelle étude du professeur Raoult a été montrée au président de la République et que les résultats sont spectaculaires.
Alors il en a pris acte, ça a été effectivement, il l'a montré, il l'a vu. Vous savez, à Marseille et à l'IHU, la moitié de la population est africaine, la moitié des soignants sont africains, et donc la rumeur court vite.
Et pardon, Paul Molga, mais en fait, ce que j'ai pas compris, surtout, c'est ce que vous avez dit au tout début de votre intervention. J'ai pas compris le rapport entre le fait qu'il y ait des Africains dans le service et le fait que l'information se répand.
Non, pardon, parce que personne n'a pu, bien mieux. Oui, pardon.
Parce que ça s'apparente à un propos raciste et ça m'ennuie un petit peu.
Non, c'est pas ça. C'est que, bien évidemment, personne n'a pu pénétrer l'IHU, mais la rumeur est très très forte dans cet établissement et ça va de couloir et d'étage en étage. Donc moi qui étais à l'extérieur et en dehors, j'ai appris ce qui s'y passait et j'ai pu suivre pas minute par minute, mais j'ai pu suivre par des interlocuteurs et des correspondants à l'intérieur, ce qui s'y passait, bien évidemment.
Donc, merci beaucoup, mais effectivement...
Vous voulez rassurer, j'espère.
Aucun rapport, en effet, avec le fait que ces personnes soient africaines ou pas, parce que là, vraiment, sinon, ça me paraissait étrange. Merci pour vos explications.
Oh mon Dieu.
Il y a énormément de choses là. Donc c'était sur BFM le 10 avril. C'est un échange qui a été repéré par le compte Twitter Balance ton média. Donc c'est la voix de Bruce Toussaint qu'on entendait. Et donc ce journaliste a évidemment suscité pas mal de questions du coup parce que c'était quand même un propos très étrange qui a été du coup critiqué par SOS Racisme. Et ce que je trouve dingue, bon déjà là, l'idée de dire qu'il y a une rumeur africaine qui fait que les propos se répandent à l'hôpital, déjà enfin tu sais même pas comment ça lui est venu à l'esprit, et en plus comment il a pu balancer ça dans le plus grand des calmes, normalement, comme si c'était une information valable et valide. Et en fait, SOS Racisme a tweeté pour évidemment témoigner de leur indignation, et le journaliste a répondu: je vous présente mes excuses pour des propos qui ont pu vous blesser, mais qui relatent la réalité de la circulation des rumeurs à l'IHU. Utilisez cette image telle que définie par Larousse du tam-tam, tambour de bois africain, servant à la transmission des messages. 3 petits points.
Alors... Non, mais s'il te plaît, quoi. Oh
je pense qu'il aurait dû se contenter dans... Je pense qu'il aurait dû en rester là, en fait, hein, non?
En fait, il aurait dû se contenter de se taire, mais lui, il est pas mal dans la catégorie des excuses qui sont pires que les propos.
C'est clair.
Tu vois?
Mais quel est le rapport avec le tam-tam? Est-ce que le personnel soignant dispose de tam-tam qui font des informations?
Ah, il y a le tam-tam qui résonne, il y a un patient qui arrive. Non, mais attends, c'est...
Tu sais, il y a un code en morse, tu vois, pour...
Non, mais... Et je pense que, tu vois, face à Bruce Toussaint, qui peut-être qu'il ne connaît pas, je ne sais pas, il s'attendait peut-être à comme, tu sais, une oreille complice, comme disait Aïd Bounoua, c'est-à-dire qu'il parle à quelqu'un, ah, vous savez, c'est comme cette rumeur africaine avec des tam-tams. Et je pense que tout le monde est d'accord avec lui. Non, mais il croit vraiment qu'il va avoir un assentiment général, parce que, évidemment, les tam-tams, c'est quelque chose que les personnes africaines utilisent pour parler. Et vraiment, c'est...
Le gars, il croit que c'était l'apéro, tu vois. Il s'est dit, il a oublié, mais en fait, t'es à la télé, frère, tu vois, c'est pas...
Donc, non, mais c'est ça, c'est vraiment des barres. Franchement, je sais que c'est très raciste et que c'est... Mais le fait qu'il soit épinglé en direct et qu'il doive ramer, il est là en train de ramer. Non, mais pas du tout, d'étage en étage, de service en service. Le mec, il est en train d'essayer de... C'est mort.
Ah, c'est drôle. Ah ouais, vraiment. Et il y a d'autres choses aussi qui m'ont perturbée par rapport à la perception du continent africain. C'est vraiment la manière dont on aborde l'arrivée éventuelle du virus, en tout cas la propagation éventuellement forte du virus sur le continent africain. Alors, je vais te lire plusieurs titres. L'Afrique bombe à retardement, une catastrophe redoutée. L'Afrique en première ligne, l'évolution dramatique de la pandémie dans un continent mal armé. Ce sont des titres d'articles de Marianne, de RTL, de L'Humanité et de Sud-Ouest pour te montrer que tous les bords politiques sont concernés, évidemment. Enfin, tous les journaux, toutes les tendances sont concernées. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que depuis le début de l'épidémie, les yeux sont rivés sur le continent africain et qu'il y a une espèce d'attente malsaine de la catastrophe et du désastre qui est absolument déplacé. C'est-à-dire qu'à ce jour, le continent africain est le continent le moins touché au monde et de très loin. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas ni scientifique, ni épidémiologiste, ni à même de savoir ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens n'arrivent pas à admettre que le continent africain puisse vivre une situation meilleure que le reste du monde, tu vois. Je trouve ça vraiment bizarre.
Et ça rejoint un peu ce que disaient ces deux médecins sur LCI, où ils parlaient de cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, enfin cette espèce de tiers-monde hein, qui est complètement arriéré et au son des tam-tams. En fait, c'est les mêmes images qui sont mobilisées et où ils seraient incapables, si jamais ça se passait, de s'en sortir. Et je trouve qu'il y a les mêmes sons de cloche sur la Chine, mais du coup, du côté... Enfin, c'est un peu différent, mais c'est de la même veine, parce que... il y a par exemple énormément de doutes sur les chiffres que produit le gouvernement chinois pour le Covid-19. Ce qui est, je pense, tout à fait légitime de questionner ces chiffres, parce que c'est le terrain où est apparu le Covid-19. Et évidemment, tous les yeux sont aussi rivés sur ce territoire par rapport à la gestion de la crise. Je trouve que la véhémence des doutes, elle est disproportionnée. C'est-à-dire que nous aussi, en France, on a des chiffres qui ne reflètent pas la réalité des conséquences du Covid. Hein. Il y a les personnes âgées dans les EHPAD, à domicile, les personnes qui n'ont pas été hospitalisées. On ne connaît pas ces chiffres-là et on sait que donc les chiffres qu'on nous communique ne sont pas exactement la réalité. Mais il y a eu un article dans le Figaro du 24 avril, très récent, qui disait « Coronavirus, le grand mensonge chinois ». Donc, encore une fois, l'équation entre la Chine, le peuple et toute cette entité-là. Et elle dit, ils disent à un moment, un rapide calcul permet de mesurer l'énormité de ce décompte. C'est comme si la France avait un taux de mortalité lié au Covid-19 90 fois supérieur à celui de la Chine. Point d'exclamation. Donc en fait, il y a vraiment...
Ouais, l'idée que ça ne peut pas être pire, ça ne peut pas être...
Ah ouais.
Ça peut pas ne pas être pire ailleurs.
C'est impensable. C'est impensable que la Chine ait mieux géré la crise que nous en France. Parce que
c'est fou.
Si barbare, si sale, si non civilisé, tu vois, dans l'esprit, c'est impensable.
Et c'est ça. Et c'est pareil pour le continent africain. En plus, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne salue pas les initiatives. C'est-à-dire qu'il y a plein de gouvernants africains qui ont été extrêmement réactifs. Et l'air de rien, le continent africain a un savoir-faire en matière de gestion d'épidémie que nous n'avons pas en Europe et que n'ont pas les Américains. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la ville la plus touchée au monde, c'est New York, qui est le symbole de l'ultramodernité, qui est le symbole de la puissance occidentale et qui, Donald Trump, a franchement géré le virus comme vraiment quelqu'un d'irresponsable. Et on a vu des dirigeants africains qui ont été plus responsables, je pense voilà, à plein de pays, le Rwanda, le Sénégal, etc., et qui même parfois sont, ou le Maroc, qui a fait des qui fabrique des masques à grande échelle, qui sont à prix abordable, qui sont à 7 centimes l'équivalent de 7 centimes d'euros, le Sénégal qui mène des recherches pour des tests rapides avec l'Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l'Institut britannique. Et j'ai envie de renvoyer aussi à cette interview super intéressante qu'a donné Félouine Sarr, qui est économiste, qui est un brillant intellectuel, un des plus brillants du continent, et il dit... donc lui, il est sénégalais, il est actuellement à Dakar, et il dit les Européens s'inquiètent pour nous et nous nous inquiétons pour eux. Et je trouve que c'est hyper juste. J'ai envie de dire franchement, vous inquiétez pour nous, mais en fait là, c'est vous qui avez des problèmes. Donc juste laissez-nous tranquilles. Nous, on est en train de gérer ce qui pour l'instant est relativement contenu. Donc juste arrêtez de nous prédire le pire, tu vois.
J'ai beaucoup aimé cette interview de Félouine Sarr qui est vraiment très intéressante et qui nous montre vraiment beaucoup de choses qu'on n'entend pas ici parce qu'on a toujours ce même récit, ce même storytelling de voilà. Et il y a de la même manière sur la Chine les propos du professeur Didier Raoult qui est très décrié, tu vois, et qui, pour plein de raisons, hein, mais moi je me focalisais uniquement sur la question de la Chine, parce que Didier Raoult, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de bien des travaux faits en Chine sur le Covid-19. Et c'est l'un des seuls, parce que moi j'entends, je lis beaucoup de choses, des gens qui disent « les Chinois ont intérêt à s'ouvrir au monde, à travailler avec les autres pays, à montrer leurs chiffres ». En fait, non. En fait, c'est nous qui avons intérêt à travailler avec la Chine, parce que c'est les premiers parce que c'est arrivé chez eux, et qu'aussi, ils sont très avancés, en fait, dans ce domaine scientifique, épidémiologique, enfin, je sais pas comment, tous ces mots très savants, là, tu vois, sur ça. Et Didier Raoult a même dit, enfin, il le reconnaît que, le matériel, les équipements, etc., sont très, très avancés en Chine. Et donc, en fait, on est encore sur cette image très 19e siècle de la Chine, elle est fermée, qu'ils ont à apprendre de nous, nous, les Occidentaux, on est plus avancés, etc., ainsi que. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, lui, il est aussi très décrié, ce professeur, parce que je pense qu'il adhère pas à l'espèce de message dominant qui est que on va donner des leçons à la Chine, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, il a aussi des liens très très forts avec plusieurs pays d'Afrique francophone et notamment le Sénégal. Et il a tweeté justement sur ses frères médecins africains. Et c'est vrai que du coup, ça infléchit aussi le narratif selon lequel l'Afrique, c'est forcément un continent auquel on donne. Je pense que c'est important de se dire que là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, notamment de sa gestion du virus, que ce soit le Maroc ou d'autres pays. Donc et même du taux de guérison. Hein, quand on voit au Sénégal, le taux de guérison par rapport au virus est beaucoup beaucoup plus important que celui qui est celui des États-Unis. Donc tout ça montre aussi qu'il faut aussi infléchir le narratif et peut-être percevoir certains pays non pas comme des menaces ou comme des pays assistés, mais comme des pays qui sont potentiellement capables de se protéger, peut-être capables de nous inspirer tout simplement.
Ouais. Et quand on essaye un peu de se décentrer de l'Europe, de l'Occident, et on tombe parfois sur des choses qui sont très désagréables. Par exemple, ces images de racisme en Chine envers des personnes noires qui sont abominables et que je condamne avec la plus grande véhémence, quoi. Donc en fait, quand on se décentre, on se rend compte que les relations Chine et pays d'Afrique sont très violents actuellement. Enfin, en tout cas, cette image-là a été très violente. Ces images de vidéos, de témoignages de personnes noires à Guangzhou, qui est donc où il y a le plus de personnes étrangères qui vivent, qui sont résidentes, parce que elles travaillent à ce commerce international. Et donc, c'est évidemment à condamner. Donc, toutes ces images, celles qui sont révélées être en Chine, parce qu'il y a aussi beaucoup d'images qui ont été chercher, enfin qui n'ont pas de lien avec la Chine, qui ont été tournés dans d'autres pays d'Asie, où ben d'abord c'est tout aussi condamnable, mais on a beaucoup utilisé ces images-là pour dire ah regardez la Chine, c'est des méchants, et évidemment la Chine, enfin le racisme en Chine c'est un fléau, la Chine n'est pas isolée de ce monde, donc elle subit les Chinois et les personnes qui vivent là-bas, noires ou étrangères peuvent subir de racisme et il va falloir que la Chine s'en empare. Mais c'est vrai que le racisme anti-noir en Chine a été quelque chose de très mobilisé récemment, mais surtout mobilisé pour justifier du racisme envers les personnes asiatiques. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absolument fou de combattre le racisme par le racisme et de combattre une discrimination par une autre discrimination. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas...
C'est en fait, l'antiracisme, c'est un principe. C'est-à-dire que tu ne choisis pas que tel type de groupe mérite d'être défendu, tel autre type ne mérite pas. Déjà, c'est faire un amalgame entre des personnes qui n'ont rien à voir. C'est vrai que moi, j'ai vu ces images-là en Chine, où il y avait des populations d'origine africaine, majoritairement, en tout cas des Noirs, qui ont été refoulées, notamment du McDo, où effectivement, la chaîne de restauration a présenté des excuses. Je sais qu'il y a eu des échanges aussi entre les différents services diplomatiques, notamment des pays africains, parce que il y a eu une espèce de rumeur qui laissait entendre que les Africains étaient responsables de la propagation du coronavirus. Donc, des gens se sont retrouvés plus ou moins contrôlés chez eux par la police, se sont vus il y a certains qui disent qu'en fait on leur a posé des alarmes sur leur porte pour les empêcher en fait de circuler parce qu'elles étaient d'origine africaine donc suspectes de propager le virus, et on reçut vraiment des... Et il y a une femme qui dit qu'elle a témoigné dans un média international par rapport à la situation de racisme qu'elle a vécu, qu'elle a subi en fait des pressions policières pour simplement lui dire d'arrêter. Donc il y a un vrai problème de racisme, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont interpellés parfois de manière bienveillante, je dis nous hein, Kif Taras, parfois de manière bienveillante et parfois en mode ah, alors je suis sûre que vous n'allez pas en parler parce que vous ne faites que dénoncer le racisme des blancs. Bon, déjà si on dénonce le racisme et la suprématie blanche, c'est parce qu'on habite en France et qu'on dénonce le racisme historique de notre pays, et effectivement on n'est pas du tout, enfin moi je trouve que c'est important de parler des questions intracommunautaires, et je pense qu'on finira par faire un Kif Taras sur ça parce qu'il y a plein de questions qui visent différents groupes. Mais encore une fois, la Chine, elle n'est pas en dehors du monde, et tout le préjugé négrophobe, anti-noir, anti-africain, il a aussi une histoire qui affecte évidemment la Chine. Mais tu vois, c'est pas une raison. Je t'avais envoyé cet échange sur Twitter, grâce, où je sais plus ce qui s'était passé. Il y avait un truc de racisme anti-asiatique. Et ah non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait, moi, j'avais posté le truc sur le racisme anti-africain en Chine. Et quelqu'un m'a répondu ah bah nous, on les a défendus et regardez ce qu'ils font. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça n'a aucun rapport, il n'y a aucun lien entre ce qui se passe en Chine et le fait de défendre des personnes asiatiques qui sont victimes de racisme, ici, à cause du coronavirus. Je ne vois pas le rapport. Et vraiment, on va arrêter de les défendre parce que voilà, c'est comme ça qu'ils nous remercient, tu vois, c'était vraiment...
C'est terrible, parce qu'en plus, il y a cette idée qu'on est chacun pour soi, en fait.
Exactement.
Alors que finalement, le racisme, les oppressions d'une manière générale, c'est des... c'est des fléaux collectifs. Ils sont créés, construits par des sociétés envers des personnes. Et c'est pas, on va pas chacun individuellement pouvoir le faire quelque chose seul. Au contraire, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et du coup, cette idée de dire bon ben, les Chinois chez eux, les Africains chez eux, les Blancs chez eux, comme ça, les vaches seront bien gardées. C'est comme ça que le monde doit être. C'est vraiment l'idée qui sous-tend ce genre de choses. De rentrer chez vous, vous êtes asiatique en France, rentrez chez vous. Vous êtes noir en Chine, rentrez chez vous. Vous êtes asiatique en Afrique, rentrez chez vous. Comme s'il y avait cette idée de voilà, chacun s'occupe de soi. Et puis, alors que non, en fait, vraiment, ce discours-là, il est terrible. Et on peut dénoncer ça ensemble. C'est pas le but de Kif Taras de dénoncer le racisme en Chine. Évidemment, on peut en parler parce que ça existe aussi en France. Il y a des personnes asiatiques en France qui ont des préjugés racistes, qui ont des réflexes racistes, des propos racistes, parce que on vit dans cette société qui véhicule ces idées-là, comme on l'a dit, dans tous ces médias. Il y a des images, il y a des titres, il y a des propos à la télé qui alimentent notre racisme culturel, quoi. Donc forcément, ouais. Voilà.
Et puis vraiment, la question du principe, pour moi, elle est importante. C'est-à-dire que d'une part, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les personnes qui ont produit du racisme en Chine et les gens qui ont été victimes de racisme en France. Enfin, ce sont deux entités différentes. Mais quand bien même il s'agirait des mêmes personnes, tu vois, à un moment donné, l'antiracisme, c'est un principe. C'est-à-dire que moi, quand les fois où, je sais pas, je me souviens que il y avait eu une de Charlie Hebdo qui avait vraiment dessiné Marine Le Pen de manière hyper sexiste, bah, ça me dérange, en fait. Et pour autant, Marine Le Pen me pose problème politiquement, mais c'est pas pour autant que je vais cautionner le fait qu'elle soit victime de sexisme, parce que pour moi il y a énormément de choses à dire sur elle. C'est pas la peine d'aller verser dans une idéologie qui de toutes les façons me heurte en tant que femme et en tant que personne engagée. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il faut dire on a des principes et les principes s'appliquent à tout le monde, tu vois, c'est pas un truc à géométrie variable.
Ça veut dire que je vais pas m'excuser auprès de Rokhaya pour ce qui se passe en Chine.
Alors
je présente pas mes excuses, hein,
sinon ce podcast va s'arrêter. Grâce à la terre d'excuses, une lettre.
Ouais,
c'est la femme qui se parasse. Parce que c'est dégueulasse ce que t'as fait en Chine.
On signe la fin de ce podcast sur le racisme à cause de ce qui s'est passé au McDo en Chine.
Oui, et pour terminer, on va aller en banlieue, hein, grâce.
Ah, notre terrain de jeu. alors, il y a eu récemment, dans le 1er mai, c'était un article dans Paris Match, un article qui était censé être un reportage feel good, hein, sur les initiatives pour lutter contre les difficultés économiques conséquences du Covid-19. Et en fait, c'était un flop raciste. Donc, c'est un article dans Paris Match qui s'appelle Covid-19 dans le 9-3, solidarité en bande organisée. Ouais, vous avez bien entendu. Donc, avec ça, vous avez une illustration dans un ascenseur d'un immeuble, peut-être un HLM. Ah non, c'est HLM, c'est marqué sous l'illustration. Dans un HLM des Courtilières à Pantin, une illustration de trois personnes noires avec des masques et un article avec beaucoup de mots type tchèque sur fond de rap. On n'utilise pas les bons prénoms, on les écorche, on donne des surnoms comme boucher, voilà. Et sur Twitter, il y a eu des discussions, hein, suite à cette publication. Et Nora Hammadi a questionné, la journaliste Nora Hammadi a questionné Bruno Jeudy, qui est rédacteur en chef de Paris Match, et qui s'est défendu. Il a dit « Il y a quelques clichés, je vous le concède, mais lisez l'enquête et vous serez surprise. Le reportage offre une vision très positive de cette solidarité dans les quartiers. »
Mais c'est abominable. C'est en fait, l'association, elle s'appelle Pierre de Lune. Elle est basée à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et l'article, franchement, il est super plein de préjugés. Tu vois, comme tu le disais, l'article, il parle en disant « un bonjour en guise de tchèque ». Et que genre ils emballent les colis sur fond de rap. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a un homme qui est engagé dans l'association, et en fait ils le décrivent comme l'armoire à glace glissée dans un survêtement qui se fait appeler boucher. Et pendant tout l'article, ils appellent cet homme boucher, c'est-à-dire ce surnom boucher l'a gagné sur les terrains de foot où il prétend avoir massacré un bon paquet de ligaments croisés. Et en fait, ce que l'association donc Pierre Delune a écrit un droit de réponse sur Fumigène Magazine, qui est un magazine qui est notamment créé, qui a été créé par Raphaël Yem, qu'on avait reçu ici et auquel contribue en tant que rédactrice en chef, me semble-t-il, Nora Hammadi, qui a justement interpellé Bruno jeudi. Et en fait, l'association a noté que les gens de l'association Pierre Delune, en fait, qui étaient soit racisés, soit de banlieue, étaient complètement déshumanisés, alors que les bobos, ils sont nommés par leur nom, leur prénom, ils sont nommés bobos dans l'article, hein. Nom, prénom, avec leur CV, avec leurs compétences, etc. Alors que les gens, en fait, des quartiers, ils sont juste réduits à des porteurs de sacs, tu vois.
Oui, c'est terrible, parce que même quand l'intention, parce que là, on parle, c'est encore un truc d'intention, c'est que l'intention, c'est de visibiliser, donc de mettre le projecteur sur des initiatives dans le 9-3 pour, ça part d'un bon sentiment, encore une fois, enfin, peut-être, de se dire voilà, on va montrer ce qui se passe là-bas, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque, mais même lorsque l'intention elle est là, le vocabulaire qui est mobilisé, donc raquette, ligament brisé, ou je sais pas, enfin tout ce vocabulaire qui pense appartenir à la banlieue, parce que c'est la personne qui a écrit ce texte, elle pense que c'est intrinsèquement des gens qui sont violents, parce que quand elle utilise des mots comme armoire à glace, parce qu'un gars qui est grand, je veux dire, peut-être qu'on pense pas du tout, enfin moi, pour moi c'est des images qui mises bout à bout, c'est pas le un mot en particulier, mais c'est mis bout à bout, tout ce vocabulaire va envoyer un message que voilà, ce qu'ils font là c'est complètement anormal par rapport à leur nature, qui est d'être violent, qui est d'être, de faire des choses. Là ils disent bien que ce boucher, le boucher, entre guillemets, cela ne m'empêche pas de cocher avec application d'un écolier les noms de 80 familles qui, signalées par le bouche à bouche, bénéficient de l'aide. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une contradiction entre le fait d'être boucher, d'être grand, d'avoir cassé des ligaments, et d'écrire avec application. Mais non, en fait, on peut être les deux. On peut être grand, fort, avoir fait du foot, et aussi être très bon à l'école. Enfin, je veux dire, c'est quoi encore ces oppositions qu'il y a dans la tête des gens. Enfin,
alors ouais, d'ailleurs, cet homme qui se fait appeler Boucher dans l'article, ce que disait l'association, c'est que c'est le surnom qu'on lui donne dans l'intimité, mais en fait, il s'appelle Mohamed. Et je trouve que le fait de dire qu'il écrit avec l'application d'un écolier, c'est vraiment hyper condescendant. Tu vois, pour un homme adulte, c'est comme si c'était difficile, tu vois. Alors que c'est quelqu'un qui quand même gère une grosse association de la ville, et il y avait vraiment quelque chose de le pauvre, il fait des efforts, tu vois, que j'ai trouvé vraiment problématique aussi, quoi.
Oh là là, oui, c'est vrai, t'as raison, il y a ce truc de... Ils sont illettrés, et là, vraiment, il est hyper appliqué, hein, c'est... Ouais, c'est terrible, donc il y a vraiment... Il faut vraiment arriver à lire entre les lignes, parce que même quand les titres ou les articles ne sont pas foncièrement et frontalement péjoratifs ou bien méprisants, il existe entre les lignes, un sous-texte qui renvoie ces images qu'on nous sert toujours les mêmes, quoi, de cette banlieue ou de ces pays barbares, voilà. Et là, on le retrouve encore une fois dans cet article de Paris Match.
Exactement, mais la réponse qui a été adressée par Pierre Delune à Pantin, et je crois qu'il y a une autre organisation qui s'appelle
Tête Grelée, ouais.
Eh bien, elle est vraiment magistrale. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien, et c'est bien aussi de voir que les organisations sont capables de reprendre en main leur narratif, et que même, comme tu le disais, avec une intention qui se voulait bienveillante, on a quand même réussi à créer. En fait, c'est comme si c'était, tu vois, Tintin à Pantin, quoi. Tu vois, c'est vraiment, elle a fait son exploration, tu vois, son exploration coloniale, et il y a Boucher. Tu vois, il y a l'armoire à glace, etc., etc., que des personnes qui sont exotisées. Donc, sur ces belles paroles.
Ouais, sur ces belles paroles.
Important, quand même, la leçon, c'est quand même, c'est qu'on peut reprendre en main le narratif. Je trouve que c'est une belle leçon que nous a adressée l'association Pierre Delune. On arrive à la fin de ce numéro de Kiftaras qu'on a enregistré chacune chez nous en cette période de confinement. Merci beaucoup, Grace.
Merci beaucoup, Rokaya. Excusez-nous pour les grésillements et les problèmes de bande passante, parce qu'il y a énormément de personnes sur mon wifi. Hein. je dis rien, n'est-ce pas, les enfants qui sont en train de jouer.
Famille nombreuse.
Kiftaras, c'est un podcast de Binge Audio enregistré aujourd'hui depuis Zoom et réalisé par Quentin Bresson. Et j'espère qu'on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci, Rokaya.
Merci, Grace. Salut.